à l'appel d'Abraham. Et je vous invite à tourner justement dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Donc, Genèse chapitre 12, nous lirons les versets 1 à 7. Donc, l'Éternel dit à Abraham, remarquez ici que ce n'est pas Abraham, mais Abram. Son nom va être changé plus tard, hein, selon l'appel que Dieu a placé sur celui-ci. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On ne touchera pas beaucoup les versets 2 et 3 ce matin en tant que tel. On va toucher tout le reste. Abraham est l'un des personnages dans l'Écriture les plus importants. Alors que Moïse nous raconte l'origine de l'histoire de l'humanité, la chute, et nous parle des générations entre Adam jusqu'au déluge et même des premières générations après cela, hein, il nous raconte tout cela en 11 chapitres. Mais après cela, il va consacrer 14 chapitres à la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est d'une grande importance dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la rédemption. C'est certainement un personnage qui en a fasciné d'ailleurs plus d'un, en raison notamment de son caractère très très particulier. Abraham était un homme beaucoup plus énergique que son fils Isaac, moins tourmenté émotionnellement que que Jacob. Il est appelé trois fois dans la parole de Dieu l'ami de Dieu, hein? Et ce qui le caractérise, bien, c'est sa grande confiance dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Paul nous le présente comme étant le père des croyants. Spurgeon disait, il est comme un miroir dans lequel peuvent se regarder justement tous les saints, tout au long de l'histoire de la rédemption de l'humanité. On a dit que si Moïse avait été le grand législateur d'Israël, Josué, le brave général qui a conduit le peuple élu à la conquête de la terre promise, David a été le plus brillant roi que l'ancienne nation élue ait connu, Abraham, lui, demeure l'exemple par excellence de tous ceux qui croient, et de tous ceux qui ont cru, de tous ceux qui croient et de tous ceux qui croiront. Il a vécu environ 2000 ans avant Jésus-Christ, donc son histoire s'est déroulé il y a presque 4000 ans. Ça fait quand même un petit bout, n'est-ce pas? Pour se remettre dans le contexte, il faut se rappeler que quelques siècles auparavant avait lieu le grand déluge, le déluge universel, la grande catastrophe, le jugement que Dieu avait fait tomber sur l'humanité, qui s'était détournée de lui, qui vivait dans le péché. Et le Seigneur, cependant, en raison de la promesse qu'il avait faite, a épargné Noé et sa famille. Mais rapidement, les descendants de Noé se sont aussi corrompus, se sont détournés de Dieu. L'apostasie s'est répandue sur la terre. On connaît l'histoire de la tour de Babel, comment est-ce que les hommes ont essayé de se faire un grand nom, de rester unis entre eux. Dieu a confondu leur langage, Dieu les a dispersés sur la terre. Et à un moment donné, selon son grand plan, bien sûr, prévu de toute éternité, Dieu a appelé un homme pour le mettre à part et faire sortir de cet homme-là une nation qui serait mise à part, en vue justement de l'apparition de celui qui avait été prévu et annoncé en Genèse 3:16, à savoir le Messie. On connaît la grande promesse qui avait été faite à nos parents juste après la chute, lorsque Dieu a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent donc et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est l'annonce du Messie, c'est l'annonce du salut. Dieu va détruire les œuvres du diable. Et tous les croyants depuis Adam et Ève ont cru en cette promesse-là, l'ont préservée, l'ont gardée dans leur cœur, dans l'attente de la venue du Messie. Hein. Nous avons le privilège, bien sûr, de vivre après que celui-ci est paru. Et donc, nous sommes au bénéfice d'une plus grande révélation et nous avons reçu beaucoup plus de lumière. Donc, le Seigneur a fait la promesse. Et malgré le péché qui ne cessait d'abonder, l'apôtre Paul nous dit « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé », eh bien, selon son plan, décrété de toute éternité, au moment fixé par lui-même, Dieu a fait naître Abraham, et encore une fois, au moment fixé par lui-même, il a appelé Abraham à le suivre, à croire en lui, et c'est le premier point ce matin, c'est l'appel. L'Éternel dit. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel s'est adressé à un homme. Alors, rappelons-nous, le contexte, c'est celui de l'apostasie. À l'époque d'Abraham, il demeurait encore quelques croyants. On a l'exemple, d'ailleurs, de Melchisédek dans la terre de Canaan. Alors ça, c'est surprenant parce qu'on se dit que c'est une terre où les hommes vivaient dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de débauches, de souillures. Mais il y avait Melchisédek, le roi de justice, celui qui a béni Abraham, et donc qui était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il devait avoir des gens qui l'écoutaient aussi, il devait avoir une assemblée quelque part. Mais ils étaient minoritaires. On a Job, qui a vécu à l'époque des patriarches, on ne sait pas exactement à quelle époque, qui ne faisait pas partie de la famille patriarcale. Et il y a la famille même d'Abraham, on va voir ça un petit peu, là, dans laquelle a été préservée une certaine connaissance de Dieu. Alors, en tant que tel, l'humanité s'était détournée, les descendants de Noé s'étaient détournés. Il restait, ça et là, quelques croyants, des petites poches de résistance. C'est l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau, hein? Lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ça depuis la chute. Mais Dieu a fait une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il est impossible que la promesse ne s'accomplisse pas, bien sûr. Et donc, en raison de cette promesse-là, Dieu a appelé Abraham. Il lui a adressé une sainte vocation. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Soit dit en passant, ce ne sont pas tous les hommes qui sont au bénéfice d'un tel appel, d'un tel privilège. De là de faire très attention lorsqu'on entend l'Évangile, lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous. Il faut prendre cela à cœur, car lorsque Dieu s'adresse à nous, il nous appelle justement à le suivre et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle même de la vocation céleste. En fait, la vocation d'Abraham, c'est une vocation bien sûr à suivre le Seigneur sur terre, mais cette vocation était premièrement de nature céleste, spirituelle. Et bien sûr que cela peut faire rire bien des gens aujourd'hui lorsqu'on parle que Dieu aurait ainsi parlé et qu'il continue ainsi de parler. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Que celui qui a créé les cieux et la terre puisse s'adresser aux hommes et se révéler. Ce qui est surprenant, ce n'est pas que Dieu parle. Ce qui est surprenant, c'est que Dieu parle à des pécheurs. Et il aurait pu rester muet, justement. Mais parce qu'il a souverainement décidé de faire grâce à des hommes et des femmes, Dieu a ouvert sa bouche, Dieu a fait entendre sa voix au sein de l'humanité perdue. Et ici, nous avons un de ces exemples-là où Dieu a parlé de façon glorieuse et a fait entendre sa voix à un homme. Et cela de façon gracieuse, bien sûr, parce qu'Abraham a répondu. Ici, Abraham a répondu, mais ce n'est pas parce qu'il était meilleur que quiconque. En fait, il nous est dit dans le livre de Josué, au chapitre 24, les versets 2-3, qu'Abraham était dans un premier temps un idolâtre. Il vivait dans la ville d'Ur, en Chaldée. C'était une ville donc prospère, une ville hautement civilisée pour l'époque. Abraham a dû bénéficier justement d'une très bonne éducation. Et donc une ville prospère, une ville éduquée, mais une ville extrêmement idolâtre. Et il a débuté comme un idolâtre. Il est venu au monde dans un monde idolâtre, et c'est ce que Josué rappelait au peuple d'Israël. Josué 24, les versets 2 à 3. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité, et je lui donnais Isaac. » Abraham est issu d'un monde idolâtre. C'est un fils d'Adam, c'est un pécheur. Mais Dieu s'adresse à lui. Dieu se révèle à lui de façon irrésistible. Et Abraham, bien sûr, a répondu par la grâce de Dieu. C'est important de se rappeler ce matin, frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'Abraham avait en lui quelques capacités, quelques mérites personnels que Dieu agit ainsi, mais c'est vraiment par pure grâce. Abraham est, selon l'expression qu'on retrouve dans le livre du prophète Zacharie, un tison arraché du feu. Vous savez, quand le souverain, Zacharie reçoit une vision, il voit le souverain sacrificateur qui est revêtu de ses vêtements sacerdotaux, mais qui sont souillés. Et en hébreu, les mots employés sont très, très forts. C'est vraiment... il était vraiment impur. Et d'un côté, on a Satan qui l'accuse. Alors, le souverain sacrificateur représente le peuple de Juifs, n'est-ce pas, qui s'était détourné de Dieu, que Dieu avait amené en déportation en Babylonie. Donc, il est le représentant du peuple. On le voit donc avec des vêtements complètement souillés, répugnants. Littéralement, dans l'hébreu, c'est répugnant aux yeux de Dieu. Et donc, Satan l'accuse. Et tout à coup, on voit l'ange de l'Éternel qui se tient à sa droite et qui dit à Satan que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Et là, il demande qu'on change, qu'on enlève les habits du souverain sacrificateur et qu'on le revête d'autres habits purs. Et c'est la grâce. Et il parle justement du souverain sacrificateur en disant qu'il est un tison arraché du feu. Un tison arraché du feu, c'est quelque chose qui était sur le point de disparaître, d'être consumé, mais qui, justement, échappe à la dernière minute d'une destruction totale, irréversible. Voici ce qu'était Abraham. C'était un homme voué à la destruction, à la perdition éternelle, mais Dieu l'a arraché du feu de son jugement. Et c'est ce qu'il a fait avec chacun de ceux qui ont cru en Christ. Nous étions voués à une damnation éternelle. Mais par sa grâce, Dieu nous a arrachés littéralement du feu de l'enfer. Ésaïe, chapitre 1, verset 9. Ésaïe rappelle que, bon, il fait référence au peuple de Juda, encore une fois, qui était très prospère à son époque, n'est-ce pas, mais qui s'était détourné de Dieu. Et Ésaïe de dire que si l'Éternel n'était intervenu, qu'il serait devenu comme Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire non seulement qu'ils étaient voués à la destruction, qu'ils méritaient la destruction, mais parce que Dieu avait un plan de grâce, Dieu a préservé Juda. Qu'est-ce que la véritable Église du Christ? Sinon qu'un tison arraché du feu, par pure grâce. Abraham est un monument et un trophée de la grâce divine. Et nous le sommes chacun et chacune d'entre nous qui avons cru en Christ. Nous sommes des monuments et des trophées de la grâce que Dieu nous a manifestée en son Fils bien-aimé. Nous avons été choisis en Christ Jésus pour le salut. Cela ne vient pas de nous. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Abraham a cru parce que l'Esprit Saint est venu transformer son cœur, lui donner la vie, le régénérer, comme il l'a fait pour chacun d'entre nous qui avons véritablement cru. Donc, Dieu s'est adressé à Abraham et lui dit, « Va-t'en de ton pays. » C'est le deuxième point. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et donc, Abraham est appelé à délaisser son ancienne vie pour immigrer dans une terre lointaine et inconnue. Il va la découvrir, bien sûr. Ça nous parle ici de ce que c'est véritablement que de marcher par la foi. Ça nous parle de notre appel en tant que croyant. Dieu nous appelle à quitter notre ancienne vie de péché. Alors, ce n'est pas bien sûr nécessairement ici le fait de quitter toujours de façon géographique, mais spirituellement, tout croyant vit un déracinement. Nous étions des citoyens de ce monde, nous étions enracinés dans ce monde, nous étions chez nous. Lorsque le Seigneur nous appelle à lui, nous sommes déracinés de ce monde. Bon, il y a encore des vieilles racines qui sont là, là, mais on comprend. Et nous sommes appelés à nous déraciner de plus en plus pour nous enraciner dans le royaume de Christ, nous fonder de plus en plus en lui. Et alors que nous étions chez nous dans ce monde, bien, on devient littéralement des apatrides, nous devenons des étrangers. Parce que désormais, nous appartenons à une autre cité, la cité céleste. Et ici, l'histoire d'Abraham, eh bien, c'est une histoire qui sert à elle nous donne des images de réalité spirituelle. Quitter son pays, Ur, en Chaldée, cette grande cité prospère pour se rendre en Canaan, dans une terre inconnue, nous parle du fait que nous sommes appelés, non pas toujours géographiquement, mais spirituellement, hein, à quitter ce monde pour nous diriger vers la patrie céleste. Et nous ne connaissons pas quelles seront les étapes. Nous ne savons pas où est-ce que nous nous dirigeons exactement. C'est le propre de la vie chrétienne. Nous devons, et ça c'est l'essence de la foi, accepter de nous laisser conduire par notre Dieu et par sa parole. Et bien sûr, si on laisse le Seigneur nous conduire et on laisse sa parole nous conduire, il va nous conduire là où le vieil homme n'aimerait pas aller. Parce que le but de Dieu, c'est de nous déraciner toujours plus de ce monde, de nous transformer toujours plus à l'image de son Fils, d'affiner notre foi, de nous fortifier, de faire grandir cette espérance dans le ciel. Et pour ce faire, bien, il y a des moments douloureux, des moments de désappointement, des moments de pleurs aussi dans ce monde, justement, afin que le vieil homme soit mortifié et le nouvel homme soit fortifié. Désormais, le croyant devient un étranger et un nomade. Et plus nous grandissons dans notre foi, plus nous devenons étrangers ce monde, moins nous nous sentons à l'aise dans ce monde. Et lorsqu'on se sent trop à l'aise dans ce monde, lorsqu'on se conforte à nouveau dans notre existence ici-bas, c'est mauvais signe. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit haïr tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pas cela. Mais en même temps, ce monde n'est plus notre patrie, c'est un monde souillé par le mal, et c'est un monde qui est voué à la destruction. Et Christ nous a fait la grâce de venir mourir pour nous, de nous racheter, de nous appeler par son esprit, pour que justement désormais nos yeux soient fixés sur lui et sur toutes les promesses qui sont oui et amen en lui. Pierre chapitre 1, versets 1 à 5, je vous invite à y tourner. L'auteur de l'Épître aux Hébreux de rappeler que nous n'avons point de cité permanente ici-bas. L'un des problèmes des Hébreux, des chrétiens à qui s'adresse donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'ils avaient perdu de vue leur vocation céleste. Ils avaient baissé leurs yeux sous la personne. Leurs yeux n'étaient plus fixés sur la personne de Christ. Et donc, ils commençaient à regarder les choses de ce monde. Et ils retournaient d'ailleurs à un culte sensuel, charnel, le culte de l'Ancien Testament. On était en recherche de prêtres visibles, de sacrifices visibles, d'un culte beaucoup plus qui touchait les sens, etc., etc. Alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit, non, ce n'est pas... Maintenant que Christ a paru, vous devez regarder à lui. On ne le voit pas avec nos yeux, mais nous savons qu'il nous a rachetés. C'est lui le grand prêtre. Il a offert un sacrifice. C'est le seul sacrifice par lequel on peut être sauvé. Et à moins de garder notre foi, nos yeux fixés sur lui, de garder notre foi en lui, il n'y a aucune espérance possible. Et il n'y a qu'un moyen d'aller au ciel, c'est de fixer nos yeux sur la personne du Seigneur Jésus-Christ et le suivre. Et il fait référence parce qu'ils étaient persécutés, ils vivaient des difficultés, ils étaient découragés parce que leur foi était tellement faible. Et donc, tenter de retourner en arrière, certains d'entre eux avaient déjà apostasié. Et là, l'auteur, plein d'amour, de façon très pastorale, mais très ferme, leur dit, « Si vous abandonnez le Christ... » vous êtes perdus. Il n'y a pas d'autre espérance possible. Et vous devez donc tenir à Christ. Il est l'ancre de vos âmes et c'est en lui seul, que vous aurez une assurance sûre et réelle par la puissance divine, tout simplement. Et il leur rappelle que leur cité n'est pas ici-bas. Nous n'avons pas de cité permanente. Sortons hors du camp. Osons porter le propre de Christ. L'auteur fait référence à toutes les souffrances de Christ, justement, en raison du fait qu'il n'était pas de ce monde et du fait qu'il a été tenté pour nous en toutes choses afin de nous ouvrir le chemin, d'être le précurseur, celui qui a défriché le chemin. Et maintenant, si nous le suivons, nous le suivons sur un chemin, justement, de difficultés et d'épreuves, à bien des égards, mais aussi de grandes bénédictions, celle du salut. Donc, 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 5. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont-ils élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Intéressant. Étrangers et dispersés. Des églises qui faisaient face à la persécution, au mépris. Étrangères. Bon, on pense peut-être même que certains avaient dû quitter leur lieu d'habitation tout ça en raison de la persécution. Bien que je crois qu'ici l'auteur veut aller plus loin que ça pour parler du statut de tous les croyants. Effectivement, nous sommes des étrangers dans ce monde dispersés. Ça parle d'isolement aussi, hein, de se sentir seul, faible, précaire, vivant des situations précaires, mais élu selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On peut se sentir seul ici-bas, on peut se sentir méprisé, abandonné, rejeté, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous avons été lavés par le sang de Christ, nous avons la vie éternelle, nous avons les choses les plus importantes qui soient. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Étrangers ici-bas, dispersés, méprisés, méconnus de Dieu, élus, régénérés par la puissance de Dieu le Saint-Esprit, participant à l'aspersion du sang de Christ. Et nous avons maintenant un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Amen. Il vaut la peine de quitter ce monde, spirituellement parlant, moralement parlant, hein, et de demeurer séparé de ce monde pour notre Dieu, justement en vue du jour où nous allons goûter donc cette plénitude, cette grande bénédiction de la terre promise qui est le ciel. Dans le pays que je te montrerai, encore une fois, Abraham ne savait pas où il se dirigeait. Il est parti par la foi. Il a obéi. Il a obéi sans savoir où il allait. On a vu dans Pierre qu'il nous est dit que nous avons été élus par la sanctification de l'Esprit pour devenir obéissants. Nous qui étions désobéissants. Alors, il a entendu la voix de l'Éternel, il a reçu la parole de Dieu, et il a obéi. Notre frère Jean nous a lu une partie de ce texte-là tout à l'heure, Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. N'oublions jamais cela lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voyons leur pèlerinage terrestre, mais rappelons-nous qu'Abraham regardait quelque chose de plus grand. Et il attendait la cité céleste, hein, celle dont Dieu est l'architecte, qui a de solides fondements. Il savait que tout ce qu'il voyait sur terre allait un jour disparaître. Alors tout ce qui comptait maintenant, lui qui avait été un idolâtre, que Dieu avait appelé par sa grâce, qui avait été justifié par grâce, c'était d'accomplir ce à quoi Dieu l'avait appelé ici-bas. Et ça doit être notre prière, frères et sœurs. Seigneur, donne-moi d'accomplir ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, quelle qu'elle soit. Tout ce qui compte, c'est d'être là où Dieu veut que je sois. » Donc, il est parti, troisième point, les versets 4 et 5, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. » Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, ainsi que tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. » Dans Acte 7, Étienne fait référence à l'appel d'Abraham. Et il nous dit au verset 2, si je me souviens bien, « Le Dieu de gloire apparut à Abraham à Ur en Chaldée. » Le Dieu de gloire. C'est non seulement d'avoir entendu une voix, mais la voix de qui? Abraham, et ça c'est l'essence d'une vraie conversion, a reconnu Dieu. Je ne dis pas qu'il connaissait Dieu parfaitement lorsqu'il s'est converti, lorsque Dieu l'a appelé à lui, mais il a reconnu la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, le Dieu de gloire. Et cette vision-là a eu une profonde impression sur son cœur. C'est le Dieu de sainteté. C'est le Dieu de justice qu'il avait offensé, qu'il ne servait point par le passé. C'est ce Dieu-là qui lui fait grâce et qui lui dit maintenant, « Suis-moi, Abraham. » Ça aussi, n'est-ce pas, on peut faire une analogie avec notre propre conversion. Paul lui-même de dire à Agrippa, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Il venait de raconter comment est-ce que Christ l'avait arrêté sur la route de Damas alors qu'il s'en allait persécuter justement l'Église de Dieu. Hein, et comment est-ce que le Seigneur lui est apparu, s'est révélé à lui, comment est-ce qu'il est tombé de son cheval à genoux et qu'il a reconnu que Christ est Seigneur. Eh bien, toutes les conversions ne sont pas toujours aussi spectaculaires à vue humaine, mais toute véritable conversion implique nécessairement d'avoir entendu la voix du Dieu de gloire, manifestant Christ Jésus. Qui est le Seigneur Jésus-Christ pour moi? Si c'est juste une espèce de sauveur bonbon, ce n'est pas le vrai Christ. Un prophète, un homme extraordinaire. Quelqu'un qui va venir à mon secours, qui va réparer certains dégâts que j'ai pu faire dans ma vie. Christ est Seigneur. Christ est Dieu fait homme, venu s'offrir en sacrifice pour me racheter de mes péchés. Dieu est un Dieu infiniment glorieux qui nous appelle à le servir avec crainte et tremblement. La voix du Seigneur, la parole de Dieu a fait une profonde impression dans le cœur d'Abraham. Il s'est prosterné devant Dieu et il a obéi à son Dieu. Ceux qui disent s'être convertis au Christ sont supposés avoir vécu quelque chose de semblable. Désormais, ils sont eux aussi captifs de cette vision qu'ils ont reçu lors de leur conversion. Je ne parle pas ici d'une vision avec des images, mais dans le sens qu'ils ont, rencontré le Christ par sa parole. Hein, le Saint-Esprit a fait entendre la voix du Seigneur. On voit ça dans Thessaloniciens. L'apôtre Paul louait les Thessaloniciens parce qu'ils avaient cru dans la parole des apôtres, des missionnaires, non pas parce que c'était leur parole, mais parce que pour ce qu'elle était réellement la parole de Dieu. Et lui-même disait aux Corinthiens qu'il était venu chez eux avec beaucoup de faiblesse et de tremblement, mais qu'il était venu et qu'il n'avait cherché à prêcher autre chose que Christ crucifié, afin que leur foi ne repose point sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il faut que la foi repose sur la puissance de Dieu, sur la parole de Dieu. Ça implique une véritable foi, une véritable rencontre avec Dieu, et c'est transformateur, cela. Et Abraham l'a expérimenté, et Abraham est parti par la foi. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut obéir. Il faut obéir. C'est le prophète Samuel qui disait à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Rappelons-nous que Saül n'a pas obéi à la voix de l'Éternel, n'a pas exterminé les populations qui devaient être exterminées, mais ils avaient offert des sacrifices. Il était tout content de dire cela au prophète Samuel. Hein, j'ai accompli tout ce que Dieu nous a demandé de faire, ce qui était complètement faux. Mais, alors le prophète lui répond, l'obéissance ne remplace pas les sacrifices. L'obéissance ne vaut pas mieux que les sacrifices. Et bien sûr, on sait que Saül a perdu justement la royauté en raison de cette désobéissance-là. Alors, il ne faut pas seulement entendre la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Abraham est parti. Et partir ainsi, c'était, je le crois, un grand sacrifice. Il partait vers l'inconnu. Ce n'était pas les routes d'aujourd'hui. Même un tel voyage aujourd'hui, ça demanderait beaucoup pour chacun d'entre nous. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone. C'était un gigantesque voyage sur des terres, sur des routes dangereuses. Et c'est un déracinement, c'est l'abandon de tout ce qu'il avait connu pour aller dans une région complètement inconnue, vers des gens qu'il ne connaissait pas, avec d'autres cultures, d'autres manières de penser, etc., etc. Il est parti, parce que Dieu lui a demandé tout simplement de partir. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant ici. Si vous tournez avec moi dans Genèse chapitre 11, verset 31. Enfin, juste avant, on a la postérité de Térak. Alors, Térak, c'est le père d'Abraham, descendant de Sem, l'un des trois fils, donc, de Noé. Et au verset 31, il nous est dit donc que le père de d'Abraham, Térak, prit son fils, Éloth, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Ils y habitèrent, les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Verset 1 du chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham. On voit dans Acte 7 qu'Étienne nous dit que Dieu, le Dieu de gloire, est apparu à Abraham alors qu'il était encore à Ur en Chaldée. Et certains pensent qu'au chapitre 12, que Dieu réitère l'appel après que Térak soit mort, mais on peut très bien traduire aussi, l'hébreu le permet, que l'Éternel avait dit à Abraham. L'appel a été fait à Ur en Chaldée, mais il est parti avec son père. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui sont données à cela, ce n'est pas toujours très clair. Comme je l'ai dit, il semble bien que Térak lui-même s'était converti, mais ils se sont arrêtés à mi-chemin. Alors, Charan, c'est à mi-chemin entre Ur et le pays de Canaan. Et ils y habitèrent, ils sont arrêtés là, on ne sait pas combien de temps exactement, mais au chapitre 12, il nous est dit que Abraham et Lot sont arrivés en Canaan avec les biens qu'ils avaient acquis à Charan. Ça veut dire qu'ils ont eu du temps pour prospérer. Ils s'étaient vraiment établis. Bon, on pense que justement Charan était peut-être trop vieux, il n'a pas été capable d'aller plus loin. Donc, le voyage s'est arrêté là pour plusieurs années. L'idée, premièrement, c'est que l'appel d'aller en Canaan n'avait pas été donné à Térak. Il a été donné à Abraham. Et Abraham, le Seigneur lui avait bien dit de quitter sa famille, son pays. La question, alors, bien sûr qu'Abraham, on le voit dans les chapitres qui suivent, semblait un homme très attaché aux siens, très attaché à Lot, très attaché après cela à son garçon Ismaël. On voit à quel point ça le déchire de devoir se séparer de ces gens-là. Il devait être attaché à son père aussi. Il a pris soin de son père, mais il n'en demeure pas moins qu'ils se sont arrêtés à Charan à mi-chemin. La destination, c'était Canaan. Et Térak est mort. Première séparation. Alors, il y a déjà une séparation à Ur, mais une grosse séparation ici. Que dit le Seigneur à ce moment-là, Abraham? Je t'avais dit de t'en aller en Canaan. Continue ton chemin. Ça aussi, c'est l'essence de la foi, de notre appel, frères et sœurs. Notre appel et notre pèlerinage ici, sur la route de notre pèlerinage, nous allons vivre des séparations. Nous allons parfois devoir faire des adieux. Il y aura l'histoire de Lot, bien sûr, qui va, en raison de la grandeur de leur troupeau, Lot va se séparer de son oncle, mais il fait plus que se séparer physiquement, il se sépare spirituellement de son oncle. De toute évidence, il trouvait son oncle un peu trop puritain, un peu trop strict dans la foi. Il est allé s'installer près de Sodome et Gomorrhe, dont il nous est dit qu'ils étaient de grands pécheurs devant l'Éternel, et après cela, on voit qu'il était rendu à Sodome. Et donc, il a régressé spirituellement. C'est aussi un autre grand déchirement dans la vie d'Abraham. Abraham lui-même, dans un manque de foi à un moment donné, a écouté le conseil d'Agar, de Sarah, son épouse. Il est allé vers Agar, il a eu Ismaël, ce n'était pas le fils de la promesse. Et en raison de l'orgueil donc d'Ismaël et même de sa mère face à Sarah et Isaac, Abraham va devoir se séparer de son fils Ismaël. Il y a même le sacrifice d'Isaac qui lui est demandé, même si Dieu n'a pas permis le sacrifice. Imaginons-nous ce qu'a dû vivre Abraham lorsqu'il conduisait son fils vers le lieu du sacrifice. Grand déchirement, beaucoup de douleur dans son cœur. Eh bien, ça, c'est l'essence de notre pèlerinage ici-bas. Il avait reçu un appel, il devait obéir à cet appel. Quelles que soient les défections autour de lui, quelles que soient les raisons, eh bien, il avait reçu un appel. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Et ça, cela est vrai pour chacun d'entre nous au niveau de notre vie spirituelle particulière. C'est vrai au niveau de notre compréhension des Écritures. Lorsque le Seigneur nous fait la grâce de nous ouvrir les yeux sur justement sa souveraineté dans le salut, sur ce qu'on appelle les doctrines de la grâce et tout ça, il faut rester fidèle à cela, quoi qu'il arrive. Je ne sais que ce n'est pas à la mode aujourd'hui. Je sais que la plupart des croyants ne veulent plus entendre parler de doctrine. Hein, et qu'on est en compétition malheureusement avec parfois des assemblées qui justement semblent prospérer, mais qui mettent de côté la sainte doctrine, eh bien, à quoi est-ce que Dieu m'a appelé moi, personnellement? Tout ce qui compte, c'est d'accomplir le plan de Dieu pour moi. Mais il y aura des moments de douleur. Il y a des moments de sacrifice à faire, des moments d'abandon, n'est-ce pas, à faire pour pouvoir obéir au Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, a dit Jésus. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Térah était devenu un adorateur de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, Genèse 31, versets 53-54, c'est Jacob qui présente Térah comme un adorateur de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui avait reçu l'appel de se rendre à Canaan. Lot est un véritable adorateur de Dieu, malgré ses faiblesses. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un chrétien charnel. Il était vraiment régénéré. Il n'a pas suivi Abraham, mais Abraham n'a pas régressé pour cela. Abraham a continué sa route tout simplement. Ismaël n'avait pas la foi. Il ne pouvait d'aucune manière hériter des promesses. Abraham a dû obéir au Seigneur et demeurer ferme dans son appel. Jean chapitre 21, verset 20. Jean, chapitre 21, verset 20. On connaît certainement tous cette histoire. Alors, Pierre, qui avait renié le Seigneur, a été rappelé par le Seigneur au ministère, à le suivre et à s'occuper même des autres disciples. Et puis, Pierre, nous est-il dit au verset 20 du chapitre 21, donc de l'Évangile de Jean, « Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, qui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Parce que Jésus venait d'annoncer à Pierre que le jour viendrait où il irait là où il ne voulait pas aller, où ce ne serait plus lui qui allait se saindre. En fait, il a annoncé littéralement à Pierre qu'il allait donner sa vie en martyr pour la cause de l'Évangile. Alors, Pierre voit Jean passer et il demande au Seigneur, ben lui, qu'est-ce qui va lui arriver? En fait, ce n'était pas de ses oignons réellement. On voit, mais de toute évidence, les disciples aimaient bien discuter de ce genre de choses. Réponse de Jésus, justement, c'est « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Oh, mais Seigneur, tel frère, mais Seigneur, telle sœur, mais Seigneur, telle église, mais Seigneur, telle gens, etc., etc., ont décidé maintenant de faire les choses de telle manière, ont mis de côté telle doctrine, et ils semblent quand même heureux. Que t'importe? Toi, suis-moi. Littéralement, Jésus a dit à Pierre, « Occupe-toi de tes oignons. Je connais mes brebis, j'en prends soin. Quoi qu'il arrive à Jean, Que t'importe, toi, suis-moi. Et ça, c'est d'une importance capitale pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, que nous puissions prendre à cœur cet appel dans nos vies personnelles. Toi, suis-moi. Le jour vient où je vais, moi, comparaître devant le tribunal de Christ. Tribunal de grâce, mais quand même. Hein? Et le Seigneur ne va pas me juger à partir de ce que les autres auront fait, mais tout simplement à partir de ce que moi j'aurai fait dans sa grâce. Toi, suis-moi. Tout simplement. Donc, une vie, la vie d'Abraham va être marquée par la séparation du reste du monde, l'obéissance à sa parole, mais elle va être régulée par d'autres affections que celles que produisent la chair et le sang, et même les liens familiaux. Ça va être une vie caractérisée par une marche par la foi qui regarde à ce qui est invisible, qui vit dans la présence du Dieu infiniment saint de l'Alliance. Une vie de mortification du vieil homme, de renoncement à soi, de crucifixion des désirs et aspirations de la chair, une vie de pèlerin étranger sur une terre promise dont il ne jouira pas de la possession jusqu'à sa mort. Hein. Il sera sur cette terre serviteur de l'Éternel, au milieu des étrangers tout simplement. Mortification du vieil homme. Nous sommes tous en recherche, n'est-ce pas, de la gloire humaine, de la réussite humaine. On aime ça être aimé des autres. C'est normal à un certain niveau, mais bien sûr, la vieille nature pécheresse en nous demande des choses qui sont de nature idolâtre. On a besoin d'apprendre à connaître notre Dieu pour être conforté par son amour à lui. Savoir que lui, il m'aime. Que lui me considère en Christ Jésus, que ce qui est important, c'est d'être dans le Christ Jésus et d'être aimé de Christ, d'avoir été racheté par Christ, d'avoir été justifié par Christ et d'être là où le Seigneur me veut. Les versets 6 et 7. Le dernier point, enfin, peut-être l'avant-dernier, rapidement. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Alors, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Marcher par la foi, c'est cela. Il arrive là, Dieu va même lui dire, « Je te donne ce pays, je le donne à ta postérité. » Mais tout au long de sa vie, il va voir les Cananéens. Lui, il est un étranger, il n'a aucun droit. Il est regardé avec suspicion. C'est un étranger. Et non seulement avec suspicion en raison qu'il était un étranger, peut-être même on le voyait venir comme peut-être même un compétiteur au niveau des affaires, parce que c'est un homme qui est devenu très prospère. Mais avec ses coutumes bizarres, n'est-ce pas? Mais aussi un homme qui adorait une autre divinité, qui devait déranger un tant soit peu. Et Abraham va vivre comme un étranger. Les Cananéens étaient dans le pays, dans toute leur force, dans toute leur gloire. Vivre par la foi, c'est de savoir que Dieu a dit, c'est d'avoir cette certitude que le jour vient où le jugement aura lieu. Dieu dira à Abraham, ce n'est pas encore le temps du jugement. Dans 400 ans, je vais juger les Cananéens. Ça sera le temps de les faire disparaître. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'analogie avec notre vie chrétienne? En ce moment, le monde est présent. Hein? Notre monde n'a pas été transformé encore par la puissance divine. Nous sommes des étrangers, notre cité dans les cieux, et nous voyons le monde dans toute sa puissance se manifester présentement. Il semble triompher à tellement d'égards. Nous savons que Christ règne dans les cieux. Il est couronné de gloire et d'honneur, mais sur la terre, on ne voit pas cela, c'est par la foi. Et c'est là le triomphe de la foi, c'est de voir dans l'invisible. Et si quelqu'un n'a pas cette foi-là, cette personne va, d'une manière ou d'une autre, va être emportée par le courant de ce monde. Parce qu'elle va s'attacher aux choses visibles. Et qu'est-ce que nous voyons de façon visible? C'est le triomphe du monde, sous toutes sortes de formes. Mais c'est seulement la foi qui fait que nous regardons à Christ et que nous savons que le jour vient où le monde sera jugé et le monde va passer et que ceux qui ont cru en Christ hériteront de la terre. Mais pour l'instant, nous sommes encore des étrangers. Et nous vivons comme Abraham, avec beaucoup de crainte ici-bas. Parce qu'il a connu de la crainte. à plusieurs reprises. Abraham n'était pas une espèce de moine sectaire non plus. On sait qu'il avait peut-être plus de 1000 personnes avec lui, qu'il était capable de lever une armée de 318 hommes pour aller libérer Lot à un moment donné, n'est-ce pas? Mais il vivait séparé. Et il était à la merci de ses ennemis. C'est Dieu et Dieu seul qui l'a protégé. Et Dieu l'a protégé parce qu'il a marché dans les voies du Seigneur. Il a connu des chutes, comme chacun d'entre nous, mais il s'est relevé. D'ailleurs, ça dit que les Cananéens étaient encore dans le pays, étaient alors dans le pays. C'est pas pour rien que Moïse souligne cela. Voyez-vous, il ne voyait rien avec ses yeux, mais l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il voyait les Cananéens dans le pays, mais Dieu lui est apparu. Dieu est avec lui. Le Dieu qui appartient à l'univers. Il était en communion avec Dieu et il va adorer Dieu, bâtir un autel au Seigneur. Alors, à vue humaine, sa situation était tellement précaire, difficile. Il ne savait pas ce que le lendemain allait enfanter, mais Dieu apparaît, Dieu lui parle, Dieu le rassure. Abraham, ne crains pas. Je suis avec toi. Quand nous regardons autour de nous, souvent, bien sûr, nous perdons courage. Ça vous arrive de perdre courage, frères et sœurs? Je dois vous avouer que ça m'arrive. Et lorsqu'on revient à la parole de Dieu et qu'on laisse le Seigneur nous parler par sa parole, il rassure nos cœurs. Il nous rappelle qu'il nous a rachetés, qu'il est le Dieu de toutes les promesses et que nous devons regarder à lui et non pas ce que nous voyons humainement. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous bâtissons un autel. C'est une manière de dire nous adorons. Alors, au milieu des Cananéens, au milieu de l'idolâtrie, au milieu des ténèbres, de l'apostasie omniprésente, que fait Abraham? Il adore Dieu. Il adore le Dieu, il est en communion avec Dieu. Quel est mon plus grand besoin ce matin? Ce n'est pas nécessairement que ma situation change. Je peux avoir besoin que ma situation change, c'est vrai. Et Dieu peut amener des changements. Il faut prier pour cela, bien sûr. Mais il y a aussi des situations qui ne changeront point, du moins qui ne changeront pas tout de suite. Mais ce qui peut changer, par exemple, c'est mon attitude face aux situations. Cette attitude-là, elle va changer selon mon niveau de communion avec Dieu. Ce dont je peux être certain, ce n'est pas que la situation va changer immédiatement ou même plus tard. Ce dont je peux être certain, c'est que Dieu veut être en communion avec moi par sa parole. Et il veut que je puisse jouir de sa grâce. Il veut rassurer mon cœur. Il veut que je puisse réaliser toujours plus à quel point il m'aime, que je lui appartiens, que rien ne peut me ravir de sa main. Je termine très rapidement avec la promesse. Alors, il y a une promesse ici qui est réitérée de donner le pays, mais juste avant, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur à Abraham lorsqu'il l'a appelé à quitter donc la terre Ur en Chaldée pour se rendre à un endroit dont inconnu? Il a dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Bon, ça c'est l'appel particulier d'Abraham. Mais il y a une vérité pour chacun de nous aussi. « Je ferai. » « Je te bénirai. » Quel que soit ce que tu vas vivre, Abraham, quelles que soient les étapes que j'ai prévues pour toi, quels que soient les obstacles qui vont se présenter à toi, sache, Abraham, que je te bénirai. Je ferai de toi. Quand Jésus a appelé ses disciples, des pauvres, des gens qui étaient habitués à la pêche, des ignorants, ils n'avaient pas étudié dans les grandes églises, les grandes écoles de théologie, tout cela, ils étaient méprisés par les pharisiens, les docteurs de la loi. Qu'est-ce qu'il leur dit? « Je vous ferai pécheurs d'hommes. » Alors Dieu, c'est le Dieu qui fait. Il prend des pécheurs, n'est-ce pas, inutiles et même ennemis du royaume de Dieu, et il fait de nous des hommes, il fait de nous ses serviteurs et ses servantes. Et il nous dit, je te ferai, je te bénirai. Il dit, comme dans le livre de l'Apocalypse, j'écrirai sur lui un nom nouveau. Ça veut dire une nouvelle personnalité. Et on voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu seras affermi, inébranlable. Je ferai. Dieu nous a appelés pour le salut, pour faire de nous de nouvelles créatures. Et tout ce que nous vivons présentement fait partie de son plan. À cet effet, je ferai, je te bénirai. Soyons certains, frères et sœurs, que Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies. Que Dieu est en train de faire quelque chose ici à Rouyn-Noranda dans cette assemblée. Soyons sûrs et certains que Dieu bénit et qu'il va bénir au-delà de ce qu'on peut imaginer, non pas de la manière qu'on pense, il est vrai, mais ultimement, bien sûr, lorsque nous allons arriver dans sa présence, nous allons goûter, n'est-ce pas, ce torrent extraordinaire de bénédiction. Alors, il nous faut le suivre présentement par la foi. Obéir à sa parole, demeurer ferme à l'appel qu'il a placé sur nos vies, c'est tout ce qui compte, quel que soit ce qui se passe autour de nous, quels que soient les moments douloureux, malgré les moments douloureux, juste accomplir la volonté de notre Père Céleste. Le jour vient où nous récolterons, nous ne le méritons pas, mais par pure grâce, nous récolterons ce qui aura été semé. Et si nous ne semons pas selon la volonté de Dieu, il n'y aura pas de récolte. Je suis d'accord avec vous si vous me dites « je ne fais pas ça pour les récompenses ». J'espère qu'on ne fait pas ça pour les récompenses, on fait ça pour notre Dieu. Mais en même temps, Dieu est tellement bon qu'il nous dit « il y aura une grande récompense ». Une grande bénédiction à la fidélité que nous aurons exercée envers sa parole et sa volonté à notre égard. Amen. Prions. Très saint Père, nous voulons te bénir ce matin, te rendre grâce, toi le Dieu d'éternité, le Dieu de gloire, infiniment glorieux, d'éternité en éternité. C'est toi, Seigneur, qui, dans ta grâce souveraine, indicible, t'es adressé à Abraham, pauvre pécheur, pour l'appeler à toi, à te suivre. Et, Seigneur, tu lui as donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et tu lui as permis, Seigneur, de te suivre, malgré les moments difficiles, les moments de séparation, les moments de douleur, les moments de souffrance. Il est demeuré ferme jusqu'à la fin, Seigneur, et bien sûr, il a hérité de toutes les promesses. Seigneur, notre prière ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est que tu nous gardes fidèles à ta parole. Fidèles à cet appel que tu as placé sur nos vies. Fidèles à cet évangile, Seigneur, que tu as fait briller à nos yeux. Cet évangile glorieux, cet évangile souverain, notre Père, qui ne repose sur aucun mérite personnel. Cet évangile, Seigneur, par lequel tu nous as adressé une sainte vocation, une vocation céleste. Cet évangile par lequel, Seigneur, tu nous appelles par grâce à la sainteté, à renoncer à nos propres plans, nos propres désirs. Seigneur, à renoncer à ce monde, à sa manière de penser, à sa manière de vivre, pour désormais, Seigneur, chercher à te plaire. Et de n'avoir qu'un seul désir, justement, c'est d'être là où tu veux que nous soyons. Et d'accomplir ce que à quoi tu nous as appelés, notre Dieu, notre Père. Ayant pour modèle Abraham, notre Père, le Père des croyants. Et surtout ton Fils bien-aimé. Lui qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec toi, mais qui s'est anéanti littéralement, Seigneur, prenant la forme de serviteur, se rendant obéissant toutes choses, jusqu'à la mort de la croix afin de nous racheter. Notre Père, quelle grâce tu nous as faite. Quel appel tu as placé sur nous. Quelle espérance qui est la nôtre. Combien sont grandes les promesses de l'Évangile. Elles sont oui, amen en Christ Jésus. Seigneur, j'aimerais te prier pour que tu puisses fortifier notre foi ce matin. Nous encourager au plus profond de nos âmes par ta parole, afin que nous puissions demeurer fermes dans ta volonté à notre égard. De ne pas regarder à gauche et à droite, de ne pas jeter autour de nous des regards inquiets, mais en regardant à toi et à ton Fils bien-aimé qui a triomphé pour nous, et en sachant, Seigneur, que tu accompliras tout ce que tu as promis, que tu ne délaisses d'aucune manière les tiens, que rien ni personne ne peuvent nous ravir de ta main, notre Dieu, car si tu es avec nous, qui est contre nous? Sachant que tu nous as aimés d'un amour éternel de toute éternité, amour manifesté en Christ Jésus, amour, Seigneur, que tu déverses sur nous, que tu déverseras jusque dans l'éternité future. Seigneur notre Dieu, bénis mes frères et mes sœurs ce matin, ici à Rouyn-Noranda. Tu connais mieux que moi, le Seigneur, ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils peuvent expérimenter, chacun, chacune d'entre eux. Seigneur, bénis, visite notre Dieu, parle par ta parole et accomplis ton œuvre. Ton œuvre, Seigneur, merveilleuse, glorieuse, pleine de sagesse, ton œuvre infaillible, notre Dieu, notre Père, et glorifie ton nom et le nom de ton Fils, sachant, Seigneur, que pour cela, tu nous appelles à des renoncements. Tu nous appelles à des sacrifices, il est vrai, notre Dieu, notre Père. Mais comme il est doux le sacrifice de tes enfants, Seigneur, puisqu'il repose sur un sacrifice plus grand, celui de ton propre Fils, qui, lui, n'avait rien de doux, puisqu'il a dû boire cette coupe, Seigneur, jusqu'à la dernière goutte, alors qu'il a été rejeté par toi, Seigneur, qu'il a connu les ténèbres de l'enfer, afin que nous, Seigneur, nous ne puissions plus jamais, mais d'aucune manière, Seigneur, être coupé de toi, notre Dieu, de voir notre communion rompue avec toi. Seigneur, ce matin, que nous puissions renforcer notre communion avec toi. Que nous puissions être rassurés que ton plus grand désir, Seigneur, c'est que nous puissions justement être en communion avec toi, jouir de ta présence, être rassurés par ta parole, notre Dieu. Que tu prends plaisir dans tes enfants, notre Dieu, notre Père, malgré nos faiblesses et nos manquements, toi qui nous as racheté un si grand prix. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dans le très saint nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.